Estamos Damos.
Pas qu'on a 125 000 auditeurs qui nous attendent, mais quand même.
C'est vrai, puis ils sont en live en plus. Hein.
Alors... Ils sont en live.
Qu'est-ce que c'est ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Le jeu dise d'aller se faire enculer.
Ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. C'est reparti pour une cinquième saison de Pardon Maman, et oui,
nous revoilà.
Premier épisode de la saison 5, donc comme vous aurez pu l'entendre, j'ai...
pas les bonnes habitudes.
Ouais, voilà. Donc voilà, j'ai avec moi deux fiers foufous pour commencer cette cinquième saison après bah, une longue pause covidale. Hein. On a dû faire avec ce que la société nous proposait. Mais oui, voilà, une longue pause, mais on est très content pour revenir, pour une cinquième saison et de faire plein de choses. Nouveau studio, nouveau studio. on a changé de pièce en vrai.
Une reprise à un rythme a priori régulier.
Oui, voilà. Oui, ouais.
En fait, partir sur un rythme de croisière.
Voilà.
Quoi.
Si on appelle ça saison 5, c'est parce que voilà, on reprend sur un rythme d'un épisode toutes les deux semaines. Et puis, en plus, on est au même endroit, donc pour ça que vous entendez que normalement le son est moins dégueulasse qu'avant.
Enfin.
On se voit, on peut se toucher. On se touche pas parce que. Quand même. mais voilà, ça fait plaisir. Vous nous avez manqué. On a fait plein de trucs. Ouais. On espère que vous aussi. Mais vous nous avez quand même manqué. Donc on est très content de revenir déjà dans vos oreilles pour commencer. Et puis peut-être un jour quand ça ira mieux dans un théâtre, qui sait.
Inch'Allah.
Dans un bar. Hein.
Oui aussi.
Moi je aussi. Même les bars.
Tout à fait.
Tout me va. Hein.
Donc hâte et puis ça fait très plaisir. Donc notre ami Juanito est toujours en el sudo, donc dans le sud. Ouais, je parle très mal espagnol. Voilà, il est toujours dans le sud, donc il va nous faire des petits reportages de temps en temps. Et puis il viendra aussi passer nous voir à l'occasion. Donc là on commence avec on va faire peut-être un ou deux épisodes pour se chauffer entre nous. Voilà, on va reprendre nos petites habitudes.
Soyez indulgents.
Voilà.
Il y aura des retours d'invités par la suite.
Exactement. Donc on commence déjà le booking des invités et puis ça va être chouette. Donc
si vous avez envie d'ailleurs de venir nous parler de quelque chose, vous pouvez nous écrire.
Ouais. Donc la saison commence bien parce qu'on a déjà des personnes qui nous ont contactés pour nous proposer des sujets. Et voilà. Et donc ça devrait être plutôt cool. Et puis voilà, si vous avez des personnes à suggérer sur Twitter, Instagram, etc., taguez-nous en disant ah vous devriez aller chez Pardon Maman ou tu devrais aller chez Pardon Maman si vous êtes plutôt familier avec cette personne. Suite
vous
à cette
taguer Edouard Baird.
Oui, tout à fait, c'est vrai, Edouard Baird.
Taguer Edouard Baird.
Edouard Baird. Ou Antoine Decaune aussi maintenant qui est.
C'est vrai.
Il a une émission sur les podcasts.
Il y avait 2 heures de perdu qui sont passées aujourd'hui.
Tout à fait.
Vendredi, je sais pas quel jour on est.
On est le 24 septembre. Ouais.
C'est génial. Coup,
tout à fait.
On profite pour les embrasser.
Oui. Bien joué. Très joli. Donc voilà, après cette très longue introduction, je vous propose qu'on parte dans le vif des sujets. De quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Eh bien, il me semble que c'est moi qui commence.
Oui.
Oh là là, j'inaugure la cinquième saison, comme j'ai inauguré la saison 4. J'espère qu'elle se terminera dans de meilleurs...
voilà, de là à y voir un motif, je ne sais pas. Mais...
Quel type d'épidémie va nous tomber sur le museau?
Non, en vrai, moi je reviens de vacances de Sicile et j'ai visité...
Sicile, la famille.
J'ai visité la Villa Casa Romana. C'est une magnifique villa romaine recouverte de mosaïques, à peu près 3500 m² de mosaïques, et dont la construction a débuté du 3e siècle après Jésus, et elle a été découverte pour la première fois au 19e siècle. Et ces mosaïques racontent plusieurs choses, comme par exemple comment est-ce qu'on vivait à l'époque. Ma préférée, c'est la mosaïque des filles en bikini, où on peut voir 10 femmes avec 2 pièces.
Oh.
Et en fait, c'est pas du
donc,
tout.
Okay, donc tu fais un sujet voyeuriste.
Pas du tout.
Disons-le.
C'était pas un deux pièces pour se baigner, mais c'était des scènes de sport. Enfin voilà, il y avait plein de trucs.
Oui, non, mais pas de souci, on ne juge pas ici.
Il y a eu aussi des sortes de tutos YouTube de l'époque.
Tutos YouTube.
On t'expliquait comment chasser certains animaux.
Tutos YouTube.
Ça va, du coup, donc les tutos, c'était la chasse du lièvre en passant du rhino, au rhino.
Ah ouais,
flamant rose. Enfin, il y a tout.
Pas le même équipement, j'imagine.
Pas le même tuto, non. Et voilà, c'est vraiment génial. Je vous le recommande d'y aller. Enfin bref, donc, j'arrête de raconter ma vie.
Je me disais, est-ce que tu as commencé ton sujet déjà?
Du coup, pour revenir à mon sujet, enfin pour expliquer mon sujet.
C'est la plus longue introduction.
Écoute, ça m'a manqué. J'ai pas parlé depuis très très longtemps.
Puis bon, quand j'avais 17 ans, j'avais un livre qui parlait.
Mais tes colocs refusent de parler avec toi. T'étais dans le silence.
Non. Parmi toutes ces histoires, il y en a une particulièrement très bien conservée, celle de l'histoire d'Ulysse et de Polyphème. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter.
Trop bien.
À ma manière.
Alors je précise, ça peut paraître bête comme ça, mais parce que je le vois écrit Ulysse, le personnage.
Bien sûr.
Parce que d'Ulysse, pas la fleur.
Non, pas le non, pas
l'Ulysse. L'Ulysse, voilà. Et le Polyphème.
Non, mais je préfère.
Sur deux plantes exotiques.
Voilà. Non, de D'apostrophe Ulysse et de Polyphème.
Ulysse, le mec qui a galéré à rentrer chez lui.
Exactement.
Celui-ci même.
Ça commence les spoils.
Voilà, on se plaint des problèmes de métro, tout ça, mais lui, voilà, il est beaucoup plus galéré.
Ouais. C'est la panne sur le RER, elle était longue pour lui.
Après, c'est vrai qu'il en a fait plus qu'un tweet. Donc bon, il a adapté ça à sa peine.
Ah, bah, il avait plus que je sais pas combien de caractères.
Après ce très chouette sujet, il me semble que c'est Camille qui nous parlait d'un petit quelque chose.
Oui, tout à fait. Et Hicham va faire plus ou moins un sujet histoire, mythologie. Mmh, et, moi, du coup, je vais faire plus ou moins un sujet animalier.
Bah, c'est vrai que Ulysse, si c'est pas histoire ou mythologie, alors si t'arrives ça à tourner en sujet sportif, je suis très impressionné.
Non, je suis sûr qu'il était très sportif.
Ouais, c'est
Ulysse, vrai, ça, à mon avis. Je l'imagine pas avec le petit bidou à bière.
Je vous remercie de ça.
Voilà,
ok, donc sujet animalier.
Sujet tout à fait animalier. Voilà.
Ok, tout à fait animalier à ce point-là.
Oui, j'ai dit plutôt animalier, mais on est même sur.
Sur les chaînes de l'animalerie, on se tient plutôt.
Tout à fait. Très court et très animalier. Aussi animalier que court.
Très bien.
Voilà.
Eh bien, oula, beaucoup de questions qui me viennent à l'esprit, mais.
Non, ce ne sera pas nécessaire. Ce sera très clair.
Très bien. Et après, ce sera à moi de finir cette valse du premier épisode. Je vais vous parler, parce que voilà, on a beaucoup entendu parler de choses un peu inquiétantes par rapport aux hôpitaux, etc. dernièrement. Et moi, je voulais vous faire un petit guide de reconnaissance des bonnes nouvelles en hôpital, en milieu hospitalier.
Cool.
Voilà. Donc, je vais vous apprendre, je vais vous aider à reconnaître les bonnes nouvelles si d'aventure vous vous retrouvez à l'hôpital. Parce que là, c'est pas censé être qu'un endroit flippant. Il y a aussi des choses qui sont positives, même si ça a l'air de faire peur. Donc, vous verrez. Je vais vous aider à. Si vous entendez des choses à l'hôpital, vous saurez reconnaître les choses qui veulent dire qu'en fait, ça va.
J'ai hâte, j'en ai besoin. Pour la toute petite anecdote, je me permets une mini digression. Cet été, entre autres, j'ai eu un truc hyper cool, à savoir un abcès sur la paupière. Donc un abcès énorme qui était.
C'est pour ça que tu n'as plus qu'un œil, je me disais.
Exactement. Qui ne réagissait pas du tout aux antibiotiques, enfin le truc hyper lent. Ça semblait
plus symétrique avant.
Et j'ai dû aller aux urgences.
Mais tu ne comprends rien à ce qui se passe. Quand t'es aux urgences?
Non, écoute, là ça allait, il y avait vraiment pas beaucoup de monde, enfin les gens étaient très gentils, enfin bref, c'était cool. Et on me dit là faut qu'on vous opère dans la journée, on va essayer de vous trouver un chirurgien. Donc tu vois, je suis hyper prise au sérieux, hyper vite, il y a pas de problème. Et on me dit retournez en salle d'attente. Puis moi je préférais, plutôt que d'être dans les box, tu sais, où t'as tous les gens qui vont pas bien, je suis un peu hypochondriaque. Donc du coup ça m'arrangeait. Il y a une meuf qui arrive à l'accueil, j'étais juste à côté de l'accueil. Et pas bien, la nana. 40 ans, mais ça se voyait. Pas bien, elle était à deux doigts de tomber dans les vannes et tout. Et elle arrive à la dame de l'accueil, oui, c'est pourquoi. Je viens vous voir parce que il y a deux mois, j'ai fait une rupture d'anévrisme et là, j'ai exactement les mêmes symptômes. Je crois que j'en refais une. Réponse de la dame, vous avez votre carte de mutuelle, il va me falloir me remplir le papier d'admission. J'étais tétanisée sur mon truc, j'étais là. Non, mais c'est sérieux, je crois, madame, rupture d'anévrisme.
Mais le formulaire à 38.
Mais grave. Et au final, la dame avait l'air de plutôt bien aller, du peu que j'en ai eu. Elle a réussi en tout cas à survivre. Pendant qu'elle remplissait le papier, ensuite elle a été quand même amenée assez vite. Mais du coup, j'étais en panique. J'étais là, mais la réponse, je fais une rupture d'anévrisme, ça peut pas être. Vous avez votre carte vitale.
Ah, mais écoute, ça fait peut-être partie du procédé.
Et surtout, qu'est-ce qu'ils auraient fait si elle avait répondu non? Il va falloir retourner la chercher, madame.
Eh bien, écoute, on fera peut-être un sujet sur le système. Sur le système de santé, je serais chaud.
Ah, ouais. Si t'es chaud, moi je le suis pas. Donc vas-y.
Je suis chaud. Oui, grave. Je vais peut-être venir des potes médecins, faut parler des systèmes de financement, pourquoi on peut se faire soigner.
Ce serait super intéressant.
Cool. Bon, est-ce qu'on ne passerait pas à ce cher Chouchou?
Eh ben, go.
Allez.
Avec un œil en moins, il ferait un très beau cyclope.
Annonce-le à tout le monde. Que tous les Grecs rassemblés sachent exactement ce qu'il en est.
J'en ai rien à foutre d'être courageux.
La colère des dieux continue. Il est dangereux de ne pas respecter un devin.
Il s'appelle Juste Leblanc.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom.
Alors du coup, oui, j'étais en Italie, mais je vais quand même vous raconter une histoire grecque.
Ce musée, c'est Zorba le Grec, le musique.
Exactement. Ah là là. Il faut savoir que les premiers colons sont arrivés en Sicile en l'an 735 avant Jésus. Donc, une partie de l'histoire sicilienne est bien, bel et bien grecque. Donc, retour dans le temps, on retourne à peu près vers le 13e, 12e siècle avant Jésus-Christ. On sort de la guerre de Troie, donc un siège de la ville qui a duré 10 ans. Un peu de contexte. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur la guerre, mais plutôt sur ce qui s'est passé après. Donc après la guerre, les hommes avec un grand H se prennent pour des dieux. Ils ne respectent plus rien, ni la justice, ni la raison. Et tu m'étonnes, au bout de 10 ans, ils ont pété les plombs, tout simplement. Mmh. Ils ont tout pillé, ils ont massacré tout le monde. Et ça a causé une grosse embrouille chez les dieux. Donc il y a Zeus, le dieu des dieux, qui régnait sur l'Olympe avec une dizaine d'autres dieux. Ben, il en perd plein. Il y en a plein qui partent parce que, ben, justement, il aurait favorisé les Grecs.
Ouais, le turnover, ouais.
Mais apparemment, Zeus, il aurait passé un petit coup de pouce aux Grecs alors que les autres soutenaient les Troyens.
Si je peux me permettre, moi j'ai plutôt entendu le fait qu'il avait passé des coups d'autre chose que de pouce aux Grecs, mais...
Aussi. Ouais. Mais du coup, donc voilà, grève générale, Aphrodite, la déesse de l'amour, Apollon, le dieu de la musique, et Artémis, dieu de la nature, tous les trois claquent la porte. Ils reviendront jamais sur l'Olympe. Idem pour Arès, le dieu de la guerre, et même sa femme, Héra, n'est plus de ses côtés. Bon, c'est pas pour la même raison. Lui, il a juste enfermé sa femme. C'est pas elle qui a décidé de partir. Mais enfin, voilà, donc il se retrouve quasiment tout seul.
On y reviendra.
Et pas vraiment. Mais en plus de tout ça, ses frères, donc Poséidon, le dieu de la mer, et Hadès, dieu des enfers, ils contestent son pouvoir. Donc il reste plus que Athéna, la déesse de la sagesse, et Hermès, le dieu du commerce, qui sont à ses côtés. Athéna, elle veut aider le roi d'Ithaque, Ulysse. Mmh. Il a grave du mal à retrouver la route pour rentrer chez lui.
Il a grave du mal.
Non, mais je vais raconter à ma sauce.
Ouais, non, mais très bien, très bien.
Prépare-toi mentalement.
L'échelle de la galère commence à grave du mal.
Il n'avait pas un problème de GPS, mais c'est vraiment un coup de Zeus. Il veut le punir. Donc, petite embrouille avec Athéna, en mode, non, il ne faut pas le punir, miskine, il nous a aidé à en finir avec la guerre. C'est lui quand même qui a construit le fameux cheval de Troie. Hein. Mais Zeus, lui, répond que c'était une menace pour eux. Il doute des dieux, et du coup, il pourrait ne plus avoir aucun pouvoir sur les humains. Mmh. Mais il est gentil, il a bon fond, mais non, tu verras, enfin voilà, grosse embrouille. Du coup, il va lui dire, je vais lui faire un test. Donc, au bout de 4 semaines de navigation, bam, grosse tempête. Il amerrit sur une île qu'il connaît vite fait et il décide de faire le plein d'eau.
Il amerrit ou il atterrit ?
Il amerrit, parce qu'il est en bateau.
Ah, mais je crois qu'on amerrit quand on arrive sur la mer et on atterrit quand on arrive sur la terre. Je pose peut-être des questions.
Il fait une escale.
Pardon. Très bien, pardon.
En vrai, c'est une très bonne question, mais j'ai pas du tout la réponse.
Pas de souci.
Du coup, il arrive sur cette île et il décide de faire le plein d'eau parce que il en a plus. Donc, ils descendent et ils sont accueillis par des gens fort sympathiques. Mais ces hommes, ils sont toujours aussi barbares. Et du coup, ils décident de piller, de massacrer encore une fois tout le monde.
Ah, et donc la bonne ambiance. Son équipe, c'est pas des enfants de cœur, quoi.
Non. Et puis, le pauvre Ulysse, il se retrouve vite débordé. Il peut pas l'empêcher. Il voit le zbeul autour de lui. Il dit,
Non. C'est comme la prof de musique au collège.
Ça suffit.
Les enfants arrêtent. Oh non.
Il est débordé. Du coup, il laisse faire. Bref, donc il y a un moment.
Le démissionnaire.
Non, lui met pas la flûte dans le. Oh bon, allez, fais ce que tu veux.
Et du coup, y a un moment, ils se font attaquer par des archers qui se défendent et tout, donc il doit se retirer. Et puis, il n'a pas trop le choix, il prend ses navires et il se barre finalement sans eau, hein, parce que c'était ça son but à la base. Et en plus, il a laissé le corps de 72 hommes derrière lui.
Ce qui n'est pas la priorité quand tu n'as pas d'eau quand même.
C'est pas faux. Mais bon, quand même, oui. c'est pas cool pour eux. Donc Athéna, elle réalise que oui. Ulysse, il n'est pas si cool que ça, il s'est barré sans respect. Mais elle est convaincue que ce n'est pas en le tuant qu'on va régler quoi que ce soit, et cette règle est toujours valable aujourd'hui avec tout le contexte qui nous entoure. Enfin,
Wink, wink.
Donc, elle veut plutôt le ramener à la raison.
Donc elle va lui envoyer des bouteilles d'Evian
dans la tête. Voilà, comme ça, ça équilibre.
Mais non, il faut déjà avoir le tampon de Zeus. Donc Zeus, il réfléchit un peu, il dit « Ok, peut-être, mais pas tout de suite. Laisse-moi jouer quand même un peu avec lui. » Donc après plusieurs semaines en mer, Ulysse et ses hommes, ils aperçoivent enfin Ithaque au loin. Enfin à la maison, tout proche du but. Mais Zeus, il pète un coup, il crée un orage. Et là...
Celle-là, tu l'as écrite, on est d'accord.
Non, c'est Homer qui... et du coup, ça les repousse vers le large et l'emporte loin d'Ithaque, beaucoup plus au sud. Une semaine entière d'orage pour enfin trouver une île.
Il devait avoir le seum, quand même.
Amérys, où ils atterrissent, je ne sais pas.
Ils font une escale.
Et Ulysse, il laisse 3 de ses marins pour garder les bateaux, mm-hmm. pendant que bah, lui et ses autres hommes, ils vont chercher de quoi grailler. Donc, au retour...
Ils n'ont toujours pas vu, les mecs, ça fait 4 semaines qu'ils n'ont pas vu.
Donc, au retour, ils sont revenus, les marins qui gardaient le bateau, ils ont disparu. Donc, Ulysse, il cherche, et là, il tombe sur un village avec des gens fort sympathiques. Là, ils vont pas refaire la même connerie, mais ils tombent sur les marins qui étaient dans ce village-là.
Alors, les bateaux, là.
Mais ils étaient complètement défoncés. Ils ne se souvenaient même plus de qui était Ulysse, pour te dire. Tu vois. Et en fait, ils ont mangé un fruit spécial, le fruit du lotus. C'est un fruit qui a la capacité de te faire totalement oublier ton passé. Et du coup, les gens, là, ils proposent à Ulysse, est-ce que tu veux un croc ? Et Ulysse, il est tenté. Il est tenté de plus avoir les images horribles de la guerre de Troie. Du coup, il prend la fleur du lotus, il va pour croquer dedans, et là, t'as Athéna qui débarque.
Non, malheureux.
Elle bitch slap le fruit, le truc qui tombe, parce que elle n'est pas vraiment apparue. Donc les autochtones, ils ont juste vu le fruit, Ulysse jeter le truc. C'est
sur les caméras de surveillance, quoi.
et du coup, ils ont pris ça comme un blasphème. Et là, il commence à attaquer Ulysse et ses hommes.
Ah. Donc, sauf que là, c'est pas sa faute.
Ah non, c'est pas sa faute. Pas les fruits, monsieur.
Mais bon, ça fait un cumul de trucs pour Ulysse. Et là, panique, il prend les 3 drogués par les cheveux, ils emmènent au bateau et ils reprennent la mer.
Donc, on se barre.
Ils se cassent.
Toujours pas de flotte.
Et là, à un moment, ils voient au loin une île montagneuse remplie de pins, de chênes, et ils se décident d'arrêter de faire le plein. Donc, on pense aujourd'hui que c'est une île qui est située pas loin de la côte est de la Sicile, mais à l'époque, c'était l'île des Cyclopes.
Ah oui, bien sûr. C'est... Évidemment.
Espèce disparue. Non, c'est géants.
Mais pas si longtemps en plus, ça me semble.
C'est des géants de forme humaine qui n'ont qu'un seul œil.
On a la photo du dernier Cyclope.
Je crois que le dernier, il est mort avec un abcès sur la paupière.
Oh le bâtard. J'allais dire qu'il avait monté un parti politique, mais.
Non. Donc, c'est ces géants qui n'ont qu'un seul œil. Il est dit que c'est les enfants de Poséidon. Ils sont rancuniers, orgueilleux, ils respectent aucune loi. Donc, leur terre, elle est très fertile. À Skip, ils n'ont pas besoin d'avoir la main verte. L'île fait tout pour eux. Ils ont des vignes à foison, ils n'ont pas besoin de labourer les champs, ils ont déjà du blé. Tout se passe bien.
Ils se mettent bien, quoi.
Ouais. Dans le texte, on peut lire, ils n'ont pas d'assemblée où l'on délibère, ni de loi. Ils habitent le sommet de haute montagne dans des grottes profondes et chacun y dicte sa loi à sa femme et à ses enfants sans s'occuper des autres. C'est un bon commentaire TripAdvisor quand même.
J'avoue. Ça donne envie d'y aller.
Deux étoiles. Société patriarcale ne recommande pas.
Enfin bref, donc Ulysse, il arrive donc sur cette île, il se dit un truc dans le genre...
Il a encore du sang sur son épée des précédentes escales, on va essayer un peu.
Le temps est passé, hein. Il se dit, vu qu'on galère à retrouver notre maison, autant prendre le temps de visiter cette île et apprendre du monde qui nous entoure, et tant qu'à faire, refaire le stock. On sait jamais, il y a une autre tempête qui peut arriver à tout moment, qui nous envoie en Inde. Voilà.
Oh, des fois que Zeus s'est mangé du chili.
Quelle horreur!
Donc, il fait un petit inventaire avant de quitter son navire, il lui reste plus que du vin. Va falloir éponger tout ça. Du coup, Ulysse, il s'en va explorer l'île. Il prend quand même avec lui un peu de vin. Donc, pendant son petit trek, pas très loin de la mer, il tombe sur une gigantesque grotte. Là, c'est sûr, c'est la maison d'un cyclope. Moi, je vois ça, mais putain, je me barre direct.
Ouais, pas chaud.
Ouais, pas eux.
Là, tu trouves des lunettes avec un seul verre et tout.
Il dit peut-être qu'il y a quoi manger et boire.
C'est ça. Et puis, il vérifie quand même vite fait qu'il n'y a personne autour et il décide d'y rentrer. Et ils arrivent, et puis là, c'est énorme. Ils trouvent dedans des dizaines de paniers remplis de bouffe, des étagères remplies de fromage, des brebis géantes qui faisaient leur vie.
Parce que j'allais dire, il n'y a pas des moutons géants.
Si, c'est ça. Et en voyant ça, les Grecs, ils se chient dessus quand même.
Moi, franchement, des moutons géants, c'est ça qui me ferait le plus peur.
C'est surtout quand tu tombes sur ça, tu te dis pas, pas arrivé tout seul.
Le maître des lieux, il doit être plutôt costaud, quoi.
C'est peut-être les brebis.
Les brebis, c'est les maîtresses des lieux.
Oui.
Avec du fromage.
Excuse-moi, non, mais c'est en quoi c'est plus foufou que de se dire il y a un cyclope qui habite là. Enfin.
Non, mais en vrai, les Grecs quand même, ils se chient dessus.
Un point pour toi.
Ils se chient dessus.
C'est agressif, une brebis. Pardon.
Donc, ils proposent de prendre rapidement tout ce qu'ils ont besoin et de se barrer ASAP. Mais Ulysse, il se dit non, YOLO.
J'ai soif.
J'ai pas envie de... non, j'ai pas envie de bouger avant d'avoir vu cette mystérieuse créature. Donc, il reste et bah, il sera servi parce que peu de temps après, une silhouette énorme s'approche de la cave. La terre tremble à chaque pas. Tout le monde va se cacher au fond de la grotte, à l'ombre. Mais Ulysse a vraiment envie de voir la bête. Du coup, bah, il s'avance un tout petit peu. Et là,
il va jeter un œil. Yes.
Et là...
Pourquoi j'y ai pas pensé? et du coup, bah, il s'avance et il voit Polyphème, donc le cyclope, entrer dans la cave. Et le truc est vraiment gigantesque. Donc, Polyphème, il ne les voit pas direct. Il ferme la porte à l'aide d'un gros rocher. Il fait sa petite toilette, tout ça, tout ça. Il se peigne, il allume un feu.
Derrière les oreilles.
Et il commence à traire les brebis et tout ça. Et là, il allume un feu et il voit les Grecs.
Et... chouette, l'apéro. Des chips.
Non, ils sont tous les deux choqués de face à face.
Il faisait quelle taille approximativement le Polyphème?
Trois terrains de foot. J'ai aucune idée, mec.
Non, mais pour voir si pour lui c'était plus des cacahuètes ou des nains, tu vois.
J'ai pas.
Non, mais très bien.
Il est grand.
Je sais pas. Il est très très grand.
Merci.
Il est dit que Polyphème a dû se baisser pour entrer dans la grotte. Donc tout dépend de la grotte.
Eh bien, nous vous remercions.
Mais c'est-à-dire, quelle est la taille de la porte de la grotte par rapport à une brebis géante?
Moi, je pense que c'est... je sais pas, je peux avancer.
Quelle est la taille d'une brebis géante par rapport à une brebis?
J'ai vraiment pas la réponse.
D'accord.
Donc, Ulysse, il s'avance quand même. Il s'avance d'un pas et il explique que ce sont des guerriers grecs qui reviennent de Troie, mais qui sont perdus sur la route du retour à cause d'une tempête qui a fracassé ces navires, ce qu'il faut, et les a envoyés sur cette île. Donc, il a menti à Polyphème parce qu'il n'a pas envie qu'il lui pète le bateau et qu'il reste à vie coincé dans ce coin-là. Mmh. Quoi. Et puis là, couillu qu'il est, Ulysse implore le cyclope de lui montrer un peu d'hospitalité. Et ça fait chelou, mais il faut savoir qu'à l'époque, l'hospitalité, c'était un rite, c'est une pratique sociale sacrée. C'est Zeus lui-même qui envoie les invités. Donc en gros, si tu refuses d'accueillir quelqu'un ou que tu le traites mal...
C'est comme une offense aux dieux, quoi.
C'est ça, c'est Zeus que tu insultes.
Ah ouais.
Méga blasphème. Tu insultes le dieu des dieux. Donc en gros, tu insultes tous les dieux.
T'as le vraiment, c'est une excuse de ouf. Quoi, tu me files pas à bouffer? Et t'es en train d'insulter tous les dieux.
C'est ça, ça se fait pas, c'est pas gentil. Tu risques de te faire punir par eux. Donc, il faut se mettre dans la peau des gens de l'époque. Quand un étranger arrivait chez toi et te demandait de l'aide, on avait peur que cet étranger soit un dieu déguisé.
Oui, c'est logique. C'est pareil, premier.
Il n'y a rien de logique dans toute l'histoire que je raconte depuis le début. Mais en tout cas, à l'époque, ils avaient vraiment peur de ça.
C'est comme les clients mystères à Starbucks.
C'est ça. Du coup, il ne faut vraiment pas faire le con. Mais là, on ne parle pas d'un homme. Hein, on parle quand même de Polyphème. Il s'en balèque total. Il se tape une énorme barre de rire. Et en fait, le cyclope, il ne craint pas les dieux. Il se prétend être plus fort qu'eux. Comme c'est écrit dans le texte, il méprise la civilisation et ses règles, et comme c'est pas écrit dans le texte, il est conchis. Il leur dit que leur venue tombait à point, parce qu'il avait pas de viande pour son dîner. Et du coup, il chope deux gars, il les balance contre le mur, il les reprend, il les gobe, et il se fait une petite sieste.
Ah voilà, donc plutôt des chips.
Ça, c'est de l'hospitalité. Du coup, il voit que Polyphème, il dort, Ulysse, il sort son arme, il va pour le tuer.
Il lui enlève un peu de cire humaine de l'oreille.
mais il s'arrête parce que la grotte, elle est fermée par, je cite, « un rocher que même 20 chars ne pourraient le déplacer ». Donc, impossible d'en ressortir. Et c'est pas tes brebis géantes qui vont t'aider. Ouais. Donc,
si tu les dresses.
Au réveil, c'est vrai qu'ils avaient ma stock de fromage, donc ils auraient pu tenir avec une bonne gastro, mais ils auraient pu... Donc, au réveil, Polyphème, il rebouffe de soldats comme pour son petit déj, et puis il sort faire sa life tout en fermant la grotte derrière lui pour garder sa bouffe au frais.
Ouais.
Donc, tout le monde se chie dessus, il commence à prier les dieux, et tout le
ils
monde...
Ils font beaucoup caca, les Grecs, dans cette histoire.
Et du coup, il y a tout le monde... qui est pris, sauf Ulysse. C'est vraiment plus la même personne depuis la guerre de Troie. Il aurait pu juste demander de l'aide à Athéna, c'est pourtant elle qui l'a aidé pour qui l'a aidé, qui l'a protégé pendant la guerre, mais rien à faire, il n'y croit plus aux prières. Prier des dieux qui ont causé un tel ravage à Troie, c'est une perte de temps. Donc, il le prie pas, mais il est pas con. C'est quand même Ulysse, quoi. Quand le cyclope il est ressorti, il ratisse un peu la cave et il trouve un tronc d'olivier. Et là, c'est peut-être un signe d'Athéna parce que bah, Skip, c'est elle qui a inventé l'olivier.
Hey, j'ai une idée de ouf, les gars, ça s'appelait l'olivier.
Non, mais c'est une chouette histoire en vrai, mais ça va me faire.
Ce sera pour ton prochain sujet sur l'huile d'olive.
Ça sera un pourquoi, ça sera un pourquoi, ça sera très bien.
Donc, ce tronc, il était aussi épais que le mât de son navire, sûrement la massue qu'utilisait le cyclope quand il va chasser. Hein. Il dit à ses collègues, t'es mal à la taille du mât. Et il prend donc cette massue.
T'es trop fier de toi, c'est génial.
Donc il prend cette massue XXL, il la découpe et il commence à la tailler en forme de cure-dent géant ou une lance. Ça fait un peu plus classe.
Ça a dû lui prendre 8 jours.
Donc les marins avec lui, ils le voient s'activer et ils décident d'arrêter de pleurnicher, de prier pour de l'aide et ils vont aider Ulysse tout simplement. Après tout, ils peuvent quand même lui faire confiance. C'est pas pour rien que le surnom d'Ulysse, c'est l'homme aux mille ruses. Je répète que c'est lui qui a construit le cheval de Troie, qui a aidé faire entrer les gens et tout ça. Mais ils en ont quand même un peu marre, quoi. Depuis le début du périple, Ulysse, il a fait plein de mauvais choix. Et du coup, ils vont pas le suivre aveuglément cette fois, mais ils vont demander à connaître le plan en détail. En mode, c'est quoi les bails? Et là, du coup, t'as Ulysse qui arrive, qui dit bon, ok, les frères, je vous ai déçus, mais là, j'ai un vrai plan. Donc, il se met à genoux avec ses gars autour et il leur explique son plan. Voilà ce qu'on va faire. On va faire picoler le cyclope avec le vin qu'on a ramené. Faut bien que ça serve.
T'es la taille des bouteilles. Oh, et mignonnette. Je rappelle qu'il a gobé deux marins juste avant. Mais
Oui, enfin, gobé. Il a mâché un peu quand même.
Ouais. Voilà.
Mais du coup, voilà, donc il explique le plan step by step. Et à la tombée de la nuit, le rocher qui bloque la sortie s'ouvre. C'est Polyphème qui revient dans sa grotte. Il fait rentrer ses troupeaux qui gambadaient. Comme la veille, le cyclope fait sa toilette. Et comme il avait un petit creux, hop, apéro, il rechoppe deux marins, il les assomme avec un coup de poing, il les démembre et il commence à les manger. Les autres, ils ont tout vu, ils sont vraiment pétrifiés et commencent à le supplier de ne pas le tuer. Polyphème leur répond par un grognement et finit par un ro monumental. À quoi Ulysse, qui lui aussi se chie dessus, on va pas se mentir.
Répond par un autre ro. Et là,
battle de ro.
Garfield 4, le film.
Non, il se dit, il faut agir maintenant. Donc, il s'approche du cyclope, il lui tend une coupe de vin. On imagine la tête de la coupe de vin. Mais c'est écrit, il lui tend une coupe de vin. Il lui dit, pour accompagner ton repas à cyclope. C'est un vin des Cicones, le meilleur vin qu'on puisse trouver sur Terre, un vin divin. T'as Polyphème qui arrive, tu dis, ah, enfin quelqu'un qui sait vivre.
Yes, de la tease.
Comment tu t'appelles, mon petit gars? Personne. Comment ça, personne? Oui, personne. Ma mère, mon père et même tous mes compagnons m'appellent personne. Ok.
Ok, il y a un plan là-dessous.
Du coup, il prend le vin, il le boit, il valide, il kiffe. Mais genre, il kiffe vraiment. Il dit à Ulysse que s'il lui servait la petite sœur, il lui ferait un cadeau. Ulysse, il lui resserre donc un autre vin, un autre verre. Le cyclope, il le boit. Et puis là, il lui dit, écoute, pour te remercier,
je te tue en dernier.
Je c'est mangerai exact. Personne à la fin.
Ah.
Donc, je trouve que c'est un cadeau de merde.
Oui, totalement.
Mais enfin bon. Donc, le cyclope, il finit son verre et il pique du nez direct. Mais il ne tient pas l'alcool. Donc les Grecs, ils passent à l'action, ils prennent la lance taillée, ils chauffent la pointe pour la durcir, ils grimpent sur le cyclope et ils plantent la lance dans son œil. Mm-hmm. Polyphème se réveille en gueulant.
Oui, oui, oui.
Ça me lance
la fameuse.
Yes, les bonnes.
Donc, et là, un cri terrible qui s'entend jusqu'à l'autre bout de l'île. Inquiet, les autres cyclopes, parce que il n'est pas tout seul, donc il y a à peu près une douzaine d'autres cyclopes sur l'île. Ils vont, j'ai pas eu le temps de les compter, ils vont vers sa cave pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Wesh frérot, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu cries comme ça? Et, on me tue. Qui te tue? Personne, c'est personne qui me tue.
Oh
personne?
Débrouille-toi.
Si tout va bien, arrête de gueuler comme un con et laisse-moi dormir. Vas-y, t'as dû mal digérer un truc. Basta, quoi. Et du coup, tout le monde se barre. Polyphème, il essaye de trouver les Grecs en mode Marco Polo, tu sais. mais tout le monde arrive à lui échapper parce
Marco.
Que. Bah, et donc là, il va se, pour s'allonger, il est rongé par la douleur. Et Ulysse et ses hommes, ils ont échappé à un premier danger. Et maintenant, bah, va falloir sortir.
Ouais.
Ils n'ont pas 20 chars sous le coude. Donc, comment faire pour quitter cette grotte ? Dans le silence, t'as un des les Grecs qui regardent leur roi en mode « Ok, maintenant, on fait quoi ?» Bah, Ulysse, il pointe du doigt les brebis. Et,
il y avait un truc avec les brebis.
Bah, il y a un moment, il va bien falloir qu'elles sortent gambader. Donc, il y a moyen qu'on trouve un truc dessus, quoi. Donc, la nuit passe, les Grecs guettent tout mouvement du cyclope, et arrive l'ob. Comme prédit, Polyphème se lève, toujours aveuglé, hein, donc il tâtonne un peu. Il entrouve la grotte, et puis il appelle ses brebis pour les laisser sortir. Et là, tel le vigile à l'entrée d'un centre commercial...
Le mec, il s'est fait percer un œil, mais il laisse quand même les biquets de sortir, les bases.
Ah non, mais ça t'est jamais arrivé de te réveiller en pleine nuit, dans le noir
Si, mais non, mais là,
tu sais exactement où pisser.
Oui, mais là, t'as quand même perdu ton dernier œil et
ton seul œil.
Oui, voilà, oui, c'est vrai. Ton seul œil, et c'est genre, ah oui, c'est vrai, faut que je laisse sortir les biquettes.
Oui,
c'est comme passer l'aspirateur quand tu viens de perdre un bras.
Comme quoi, toute personne, peu importe la méchanceté, on a tous une part.
Il est humain, il est cyclope, quoi.
Du coup, t'as niqué ma blague, donc je recommence.
Pardon.
Donc voilà, il laisse sortir les brebis, et là, tel un vigile à l'entrée d'un centre commercial, il les laisse passer trois par trois, en tâtant juste leur dos pour vérifier qu'il n'y a personne né dessus. Et les Grecs, ils sont pas si cons, hein. Ils sont mis en dessous, en mode paresseux.
En tenant les mamelles.
C'est ça, ils sont accrochés par la laine, par le bas. Et ils réussissent à s'enfuir. Donc, une fois dans le navire, Ulysse, il est quand même fou de rage. Il a perdu 5 de ses hommes. Ils ont
vraiment, ça aurait pu être pire.
Ouais, mais enfin, quand même.
Ils n'ont toujours pas bu, putain.
Ils ont été mangés par Polyphème. Et ce connard, bah, il n'a pas respecté la loi de l'hospitalité. Il l'a cherché. Il mérite ce qui lui est arrivé. Cher. Donc,
comme l'a écrit si bien Homer.
C'est ça. Donc, dans le bateau, en repartant, bah, Ulysse écrit « Hey, du con !» C'est pas personne qui t'a crevé l'œil, c'est Ulysse, roi d'Ithaque, fils de Laërte. Puis là, t'as les deux commandants à côté de lui qui commencent à l'engueuler en mode qu'est-ce que tu fous ? Arrête tes conneries, wesh. Donne-lui ton numéro de sécurité sociale tant qu'il est.
Et là, il le fait. Eh bien, invention de la sécurité.
Allez, bah, il faut qu'on se barre. Donc, il commence à ramer rapidement. Et pendant que le bateau avance, bah, Polyphème, il prend un énorme rocher et il le jette de toutes ses forces à l'endroit exact où Ulysse a gueulé. Donc, ils l'ont échappé belle.
Oh.
Et il le charrie une dernière fois sur la route, et effectivement, bah, c'était une grosse connerie de la part d'Ulysse, parce que bah, Polyphème, il appelle son père, Poséidon, hein, c'est pas n'importe qui.
Ah oui, c'est vrai que c'est les fils de Poséidon, ouais.
Et il le supplie de le venger, de le punir et de détruire Ulysse, qui ne trouve jamais le chemin du retour, et si c'est trop en demander, bah, s'il doit vraiment trouver ses terres, bah, Polyphème veut que Ulysse rentre après avoir eu un nombre incalculable de galères, et qu'il perde tout le monde à ses côtés, qu'il rentre bredouille et seul. Donc, Poséidon, bah, il entend les prières de son fils et jure de le venger. Donc voilà, ça c'était pour mon histoire. Si vous avez kiffé autant que Polyphème a kiffé le vin et que vous voulez que je vous resserre la petite sœur, bah dites-le nous sur les réseaux sociaux. Il y a moyen d'en refaire d'autres parce que je me suis vraiment éclaté en le faisant.
Je suis trop chaud.
Ah mais on veut la suite du coup.
Ouais, bah...
La fin des aventures d'Ulysse.
Mais il y a beaucoup de trucs. Hein. Là c'est vraiment juste le début de...
Moi j'ai fait un bac L et en terminale, dans mes quatre œuvres qui pouvaient tomber au bac, j'avais l'Odyssée que j'ai lu en entier.
Ah ouais.
Et que je dois avoir d'ailleurs, si tu veux que je te l'emmène la prochaine fois, si tu veux faire la suite. Mais je sais pas si tu veux faire la suite.
Carrément. Ouais.
Et il en chie sa mère. Quoi.
Ah bah ouais. Mais là en plus c'est que le début des trucs. Donc, je me suis pas spoil, je connais pas la suite.
Mais le pire du pire, c'est qu'il a une femme.
Oui, qu'il attend.
Oui, bah oui.
Pénélope, quoi. Oui, et c'est elle la vraie héroïne parce qu'elle attend la meuf, quoi.
Ouais, ouais.
Oui, bon, après, lui, il se bat et tout, quoi. Enfin, bon,
oui, c'est vrai. Ouais. Oui, mais elle attend.
Non, bah, je suis d'accord.
Il y a plein de mecs qui veulent la marier de force.
Voilà, elle a pas un rôle de ouf. Disons que c'est un travail d'équipe.
Mais voilà. Enfin, c'est les feux de l'amour, ce truc-là, parce qu'il y a aussi son fils qui quitte, qui va chercher justement son
père. Je me souviens qu'il y a eu des dessins animés dessus, des trucs comme ça. Ah ouais, parce que, ouais, je me souviens avoir vu ça étant plus jeune.
Mais des trucs des années 70, oui, des trucs assez vieux, je crois.
Ouais, et genre sur Ulysse qui veut justement retrouver et tout. Et ouais, à chaque épisode, c'est genre, ah, je pensais, c'est un peu comme Sliders, le monde parallèle. Mm. Ah, c'est chez moi. Et en fait, non, ta-da-da, et un épisode de plus.
Donc voilà, c'était trop bien. Polyphème.
Non, j'ai raté le lancement. Oh, ce sont des choses qui arrivent.
Trop bien.
Ouais, trop cool. Merci beaucoup. Je suis très très chaud pour la suite. En plus, c'est cool. Ça fait j'aime bien, ça fait des histoires et tout.
Ouais, bah et puis même moi, c'était cool parce que en vrai, je découvrais cette histoire et j'avais vu du coup cette magnifique mosaïque dans la villa Casaroman. Et puis je me suis dit tiens, ça peut faire une bonne histoire. Et oui. Parce que j'étais intrigué du début.
Ah, l'histoire des dieux, c'est trop bien.
Ouais, mais il faut s'accrocher parce que ça part dans tous les sens.
La timeline, genre le Marvel univers, c'est
t'as plusieurs versions aussi.
Ah ouais.
En fait, je crois que l'Odyssée a été écrite par Homère, mais il me semble qu'il y a d'autres auteurs et puis il y a des coutumes orales.
On n'a pas l'original, mais ça a été réécrit plusieurs fois et du coup.
Ça me fait penser à d'autres bouquins.
Mais puis Ulysse, ouais, c'est un personnage hyper.
Hyper attachant.
Hyper controversé, justement. Enfin, qui est à la fois un connard et un mec attachant, justement.
J'aime bien le fait que ce soit pas le héros parfait.
C'est ça.
Donc, il fait de la merde, donc ça donne du grain à moudre pour faire des histoires, des machins.
T'as raison de dire que la guerre de Troie l'a transformé. Mais ce serait bien d'ailleurs un sujet sur la guerre de Troie. Oui. C'est hyper intéressant, toute l'origine, puis pour mieux comprendre le schisme, justement, qu'il y a entre les dieux et tout. Enfin, c'est
Mais je crois que ce soir, j'aimerais regarder justement 300, où on en reparle un peu. Enfin, bref.
Et on en parlait tout à l'heure, ça m'a fait penser au jeu Hades. Si vous aimez bien les jeux vidéo et que vous aimez la mythologie grecque, le jeu Hades est vraiment ouf. C'est un roguelike action, on va dire. En gros, vous parcourez les enfers pour essayer d'en échapper. Vous êtes le fils de Dieu. De Hades. Et vous voulez parcourir les enfers pour aller rejoindre votre génitrice dans le royaume des humains. Et c'est très bien foutu. C'est un jeu extrêmement beau, avec des très belles mécaniques, une narration qui est très joliment dosée. Vraiment, c'est un jeu qui reçoit énormément de prix parce que c'est très très réussi. Donc je vous le recommande, il n'est pas très cher, il est à 20-25 euros. Et il vaut vraiment le coup, c'est une pépite, vraiment. Alright. Et il y a plein de dialogues avec plein de. Soit des dieux, soit des muses, des trucs comme ça. Et c'est très chouettement fait.
Cool.
Donc je vous recommande.
Eh bien, merci.
C'est bien noté.
Et je vous propose maintenant de passer au sujet de Camille.
Pour bien grandir,
vous avez vu Didier.
Mange au moins 5 fruits et légumes par jour.
Vous avez pas vu les bestiaux? Je vous garantis qu'ils viennent pas pour manger des fruits de saison.
On va parler oiseaux et fruits, en effet. Donc, en fait, j'ai commencé il y a quelque temps un nouveau travail et l'histoire que je vais vous raconter, c'est une collègue qui m'a raconté ça. On parlait voyage et elle m'a raconté ça midi sur une pause déjeuner. Et je me suis dit, il faut absolument que j'en parle à part de maman. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai passé mon entretien d'embauche pour ce travail, la meuf qui m'a fait l'entretien d'embauche, enfin donc ma chef, connaissait pardon maman. Je trouve je trouve ça complètement dingue.
Bonjour.
Donc c'est quand même.
Bonjour madame, vous avez bien fait de la recruter.
non mais
donnez-lui c'est vendredi pour qu'on puisse enregistrer.
Ouais. C'était rigolo donc après peut-être qu'elle a découvert tu sais aussi en me googlisant quand elle a vu mon CV puis qu'elle a écouté, mais du coup, elle avait déjà écouté des épisodes au moment de l'entretien.
C'est-à-dire que ta couverture réseaux sociaux, te protège de tout ton passé de stripteaseuse et compagnie.
du coup, j'étais hyper en mode... Parce que,
mais c'est super intimidant.
Tu sais, puis ça fait pas hyper sérieux, quoi.
Je trouve ça, moi, ça, j'ai pas...
Non, mais tu vois, c'est vrai que j'aurais pas tendance à lui dire, commencer, faut les faire dans l'ordre, les épisodes, le premier sujet, je parle des putes,
j'avoue.
Tu parles du Moyen-Âge.
Ça va, enfin, je sais pas, moi, je suis plutôt fier de ce qu'on a fait.
Non, mais moi aussi,
c'est intimidant, c'est vrai.
Et comme quoi, ça porte pas préjudice parce qu'ils m'ont pris, mais du coup, c'était, Enfin, bref, tout ça pour dire, du coup, c'est une collègue qui m'a raconté cette histoire. On parle tellement de nos vies ce soir. C'est une collègue qui m'a raconté cette histoire et je me suis dit, il faut absolument que je vous en parle. Donc, c'est un sujet animalier, et je vais vous parler d'un oiseau.
Allez.
Je ne sais pas trop comment ça se prononce, le kérirou ou le kériru.
Il est petit, il est vaillant. Ah non, ça c'est kérirou.
Yes, très bien, très bien.
Qui est également appelé le carpophage de Nouvelle-Zélande et qui vient donc...
De
Nouvelle-Zélande.
Bingo. On voit que c'est notre spécialiste animalier.
C'est un piège.
Non, pas du tout. Il vient de Nouvelle-Zélande. Donc en fait, c'est si vous googlisez son nom, c'est un gros pigeon.
R-E-R-U.
Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment un gros pigeon.
C'est un dodo.
Non, mais tu sais, le pigeon sur le parvis de Notre-Dame qui a bouffé toutes les frites des touristes, tu vois, et tous les restes de kebab.
J'en ai vu un Disney, il était... Bon, je vous enverrai la vidéo, il est monstrueux. Pardon.
Avec grand plaisir, j'adore les gros pigeons. Et c'est vraiment un très très gros pigeon. Il peut peser quasiment 1 kg.
Oh putain. Ah
ouais, mais ouais, tu sais, enfin, pour un pigeon, c'est correct.
Tu te le fais gentiment le dimanche.
Et puis, il a des... c'est joli, si vous googlisez, il a des petits reflets de couleur. Il n'est pas que gris, il a des petits reflets un peu verts et tout. Alors là, vous devez vous dire, mais où est-ce qu'elle va en venir avec son pigeon à la con? Qu'est-ce qu'elle nous veut?
Tu te souviens qu'on faisait des sujets à part de maman. Hein,
c'est un talk show, c'est et c'est un pigeon qui est apprécié parce que, comme il est très gros, il est le seul à pouvoir bouffer certaines graines, faire caca et donc, du coup, tu sais, les ressemer. Ailleurs.
Yes.
Non, mais tu vois ce que je veux dire.
Genre comme des noix de coco, par exemple.
Non, mais tu vois, il y a certaines graines de plantes en Nouvelle-Zélande
qui sont trop grosses pour les petits oiseaux.
Voilà, qui sont trop grosses pour les petits moineaux. Et donc, lui, il participe
à la biodiversité.
Exactement.
C'est que pour les colibris, ça va être chaud, quoi.
Voilà. Et donc, lui, comme il est gros, il peut manger des grosses graines. Et en fait, il a été élu oiseau de l'année en 2018 par les Néo-Zélandais.
Ok.
Voilà. Et
il va falloir que tu me fasses un sujet sur tous les oiseaux de l'année des précédentes années.
Mais non, mais la question, c'est pourquoi? Et c'est là que c'est bien rigolo. Il se nourrit essentiellement de fruits.
Ok.
Ok.
Frugivore.
Exactement. Parfois fermenté.
Ah, donc il est sous. Il
donc c'est sous. Un oiseau bourré.
Ah oui.
C'est absolument génial.
Il y a
des... Oui, c'est vrai. Et donc c'est un... Enfin, vous pourrez voir les vidéos, c'est hallucinant. Le truc est bourré.
Ah mais genre il a vraiment les stigmates de l'ivresse. Et,
Ah oui, non mais totalement, il vole pas droit, il marche pas droit, okay. Il se tape des arbres. Mais l'enfer, et t'as des photos ou des vidéos où il suspend juste à une branche dans le vide, à une patte. Et sauf que le...
Tu rentres à ton nid là.
Mais le truc tombe et c'est horrible parce qu'il y en a plein qui meurent parce qu'il tombe, il se vautre des arbres.
T'imagines, t'es obligé de mettre des tapis sur
et
les
alors,
arbres.
Et alors, bah attends, j'y viens. Et donc du coup, il tombe des arbres et puis soit il se tue. Soit bah, ils sont bourrés, ivres-morts au sol, donc tu as un chat ou un mammifère carnivore qui va passer et qui va le bouffer. Donc c'est dangereux pour lui. Et donc en fait, il y a des Néo-Zélandais, ça se passe surtout l'été, qui voient que dans leurs arbres, dans le jardin, ils ont des kérirous bourrés et ils mettent des matelas en dessous des arbres. Et ma collègue me racontait ça, elle me disait c'est hallucinant, t'as les petits vieux, ils foutent des matelas sous les arbres pour sauver les kérirous quand ils vont tomber bourrés. C'est... Et t'as des refuges l'été, donc des refuges animaliers, qui incitent les Néo-Zélandais à leur ramener les kérirous bourrés qui trouvent pour faire cellules de dégrisement pour pigeons. C'est génial.
C'est
pour protéger. Et donc, bon. L'espèce, elle est pas toute, enfin, elle est pas en voie d'extinction parce qu'au début, je me suis dit, mais c'est horrible, c'est une espèce qui va
survie, c'est pas ouf, hein.
Qui va s'auto-éteindre. Et non, apparemment, elle est pas en voie d'extinction. Mais du coup, les Néo-Zélandais sont assez attachés à cet oiseau-là. Et moi, j'avoue que j'en avais jamais entendu parler.
Bah non, c'est ouf.
Pour moi, un oiseau de Nouvelle-Zélande, j'aurais dit le kiwi, tu vois. C'est,
Bah ouais, de ouf.
Et
du coup, il a été voté l'oiseau de l'année parce qu'ils sont bourrés.
Ouais, parce que du coup, il est hyper attachant, quoi. Voilà.
Okay, d'accord.
Il est connu pour ça, mais voilà, vous tapez Drunk Kiriru et puis ensuite, c'est parti, c'est que des vidéos hyper drôles, quoi.
Oh, putain, j'ai hâte.
Et j'ai oublié de vous le dire, en fait, c'est un oiseau qui est assez sacré.
Pardon, je viens de chercher. Première vidéo, Inebriated Kiriru Pigeons Binge on Fruit Punch. C'est-à-dire, en gros, Kiriru en état d'ébriété. Et effectivement, oh, c'est un très joli pigeon.
Mais t'as vu, c'est un pigeon beau. Ça n'a rien à voir avec le pigeon moche de chez nous.
C'est
mais gros, mais beau.
Oui, ah ouais, mais on dirait vraiment un pigeon, en fait.
Ah oui, mais c'est ouf.
Ah, mais c'est, je crois que c'est une espèce de pigeon.
Ok, okay. Nous avions peu de foi en ta description, mais je dois avouer que c'était très...
Et donc, par contre, c'est un pigeon sacré, étant donné qu'il est associé à Maui, dans la culture maori. D'accord. Donc, Maui, c'est un héros de la mythologie...
Maui.
C'est un héros de la mythologie Maui, qui est un héros un peu... Un peu controversé, un peu fourbe, un peu, tu vois.
Il doit rentrer chez lui.
Mais exactement, il y a une femme, Pénélope, qui l'attendait. Enfin bref, c'est la galère. Et en fait, Maui, dans la culture maori, il s'est transformé en kérirou à un moment. Et donc, comme le kérirou, il a un plumage vert, etc., bah, on raconte que ça représente la ceinture en végétal de Maui, etc. Mm-hmm. Voilà. Mais en tout cas, toujours est-il que si vous passez en Nouvelle-Zélande, essayez d'observer ou d'aller voir dans des refuges si vous pouvez aider ou quoi.
Et puis si vous avez une petite soif, vous pouvez essorer un kérérou au-dessus d'un verre. Et,
non mais c'est incroyable, tu te dis autant leur mettre dans le jardin plutôt que de mettre des fruits fermentés. Tu fous directement de l'agneau en fait. Cet oiseau se plairait en Franche-Comté, par exemple.
C'est vrai qu'ils ont mis des matelas, mais ça aurait été trop drôle qu'ils mettaient des tartines de pâté pour essayer de les faire dégriser un peu, genre pour absorber du pain de mie.
Des pâtes. Voilà. Mais ils ne mangent pas que des fruits fermentés, par contre. Ils mangent des fruits, mais il y a certaines saisons de l'année où les fruits ont pourri au sol. Et ils mangent ça, et là.
Et d'autres, pour le coup, d'autres oiseaux ou animaux ne vont pas les bouffer. Donc
c'est ça. Lui, c'est vraiment. Il s'en fout. Ouais. Alors que les autres oiseaux fermentés, ils n'y vont pas, mais lui, il se dit.
C'est trop drôle.
C'est bon quand même. C'est les Joey des oiseaux.
Ouais, c'est ça.
Ils bouffent tout. Voilà, c'était mon petit sujet.
Eh bien, merci. Sacrée découverte.
Ouais, je valide.
Je crois que c'est mon nouvel animal totem. Après, c'est niveau visuel où c'est compliqué parce que si tu t'en fais un animal totem ou une mascotte, les gens vont dire « Oh, un pigeon !»
Oui. C'est un kérérou. Ouais, un oiseau sacré maori bourré.
Vous devriez écouter « Pardon, maman », saison 5, premier épisode. Camille, on a fait un excellent sujet. Et elle était juste avant le magnifique sujet d'Ilias. Oh, quelle transition, c'est fou, nous sommes à France Inter. Pardon. Et si on passait sur un sujet un petit peu interactif, puisque je vais vous poser beaucoup de questions.
Et si on passait sur un sujet intéressant.
Mais non, je suis gentil. Non, un peu interactif, parce que je vais vous poser beaucoup de questions, des suggestions et tout. Donc, allons-y.
Je suis une malade. Oh, pas malade.
On parle ce matin.
Eh bien, soyez patients, ça va aller mieux.
Mais tout va très bien.
Tant mieux.
En dehors de ça, tout va bien.
Tout va bien. Alors, petit... Exactement. Petit disclaimer, je vais essayer de ne pas trop me prononcer sur, essayer de vous rassurer sur « Oh là, vous inquiétez pas, telle pathologie, c'est pas grave, etc. » Je ne suis pas médecin, je ne suis pas personnel hospitalier, spécialiste, etc. Donc, voilà, je ne prendrai pas parti sur ces choses-là. Je vais plutôt vous aider à reconnaître des termes très particuliers. Et vraiment, le terme en lui-même, ce qu'il veut dire, et pas les conséquences potentielles. Petit disclaimer, fini. J'en profite également. Avant de commencer ce sujet, pour remercier mes amis Thierry, Kevin, Elodie qui m'ont aidé à écrire ce sujet, parce qu'ils sont, ils sont eux-mêmes en milieu hospitalier, et donc m'ont aidé à trouver ces exemples. Ouais, en fait, à force d'entendre mes amis parler et me raconter des trucs imbitables, je leur demande de temps en temps ce que ça veut dire, et je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui ont l'air très compliquées, qui ont l'air très dangereuses, et en fait ça va. Donc commençons. Si par exemple, donc là le but c'est de vous dire, voilà, si vous entendez ces choses-là à l'hôpital, au moins vous pouvez vous dire, ah, en vrai, ça va. Donc, si vous entendez, j'ai vu Madame Michel en chambre 305, elle est totalement apnéique.
Apnéique.
Ouais, qu'est-ce que ça pourrait vous
dire? Moi ça me fait penser à apnéique. Donc j'imagine la dame, elle fait...
Alors,
elle retient sa respiration. Y a l'idée.
Tu as déjà identifié le bon sujet.
C'est autour de la respiration?
Ouais.
Ah, ça veut dire qu'elle respire au top, je suis sûr.
Oui,
elle a une respiration, mais genre de
elle a
ouf,
pas,
quoi.
Elle a pas de souffle.
Eh bah, Madame Michel respire normalement. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire.
Ok.
Alors, selon... Alors, j'ai mis une citation parce que vraiment, elle m'a fait beaucoup trop rire. Donc, ce que veut dire, ce que pourrait signifier l'apnéisme et tout, enfin, être apnéique. Et d'après passeport-santé.net, avoir une respiration normale...
J'ai un site affilié à lescafards.com.
vraiment, globalement, vu la description, tu vas voir, donc... avoir une respiration normale n'a que des bonnes conséquences. Bonne hygiène de vie, bonne santé mentale et physique, meilleur sommeil et une meilleure énergie au quotidien.
Wow.
Personne ne doutait de ça en fait. Je sais pas pourquoi ils l'ont écrit.
Personne me l'a dit, moi aussi.
Ouais, je. Donc, mais bon, c'était moins ça. Donc, quand on a un état apnéique, ça n'a que des bonnes conséquences. C'est opposé à quoi?
Apnée.
À des apnéiques.
Ah, ben c'est plutôt ichouchou qui est plus proche, désolé. Oh. À non-apnéique.
Ah, ouais.
Ou juste mort, globalement, suivant la durée de l'état. Parce que, en fait, l'apnée, c'est défini comme un arrêt momentané de la respiration. Et du coup, si d'accord. C'est momentané pendant trop longtemps, du coup, c'est plus momentané. Et c'est
définitif.
Ouais, voilà, on se rend plutôt sur une mort. Bon, sachant que là, on parle de réaction physiologique du corps, etc. Donc. Si un patient est non-apnéique, potentiellement, on peut le mettre sous respirateur, etc. Mais voilà, sachez que si vous entendez qu'un de vos proches, par exemple, à l'hôpital, si vous entendez une personne passer et faire son débrief et vous inquiéter en disant « Oh mon Dieu, tata est apnéique !» ça va.
Ça intègre, oui. Tranquille.
Globalement,
c'est
ça passe.
C'est-à-dire qu'au moins, niveau poumon, on ne sait pas pour le reste, mais au moins, elle respire, quoi.
Voilà, c'est déjà ça.
Très bien.
Alors, si vous entendez maintenant, j'ai vu Madame Michel en chambre 305. Elle était sinusale.
Toujours la mère Michel, quoi.
Est-ce que ça a un rapport avec le nez?
Sinusale. Non, c'est le premier truc que j'ai marqué. Non, pas de problème de sinus ou de cloison nasale. Voyons. Ah. C'est vraiment ce que j'ai marqué. Alors, sinusale.
Sinusale.
Sin, ça veut dire sang.
Ouais, oui.
Et zal.
Donc, sang. Non, sang usal.
Alors, c'est la mauvaise source, mais.
Est-ce que ça n'a rien à voir avec le sinus?
Enfin, non, c'est potentiellement la bonne source. Alors, je pensais que c'était. Je pensais que c'était ça, mais non.
Non.
Okay. En fait, ça veut dire que. Alors, du coup, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire selon toi si c'était ça, ça...
C'est sinusal, tu dis?
Ouais.
Sinusal, c'est que bah, t'as des hauts et des bas, quoi.
Ah, oh, bah, Madame Michel, elle a une vie un peu comme tout le monde.
Ah non,
quoi.
C'est des bonnes nouvelles.
Non, non, Madame Michel a un rythme cardiaque régulier, tout simplement.
Bah, ah oui, ça, donc rien à voir avec les sinus. Bah, non. Les sinus du cœur.
Oui. Ah, pas loin, il y a un truc. Bah,
moi, je pensais vraiment à la courbe du sinus.
Alors. C'est tout à fait lié à ça, mais pas parce que c'est une sinusoïde.
D'accord, ok.
Donc en fait, comme vous le savez très certainement, le cœur est notamment formé de plusieurs cavités, donc oreillette droite et gauche, ventricule droit et gauche, donc peut-être des souvenirs de... Non, c'est peut-être des souvenirs de SVT, de collège, de lycée. Ouais, hein,
on avait le petit schéma, tu sais, voilà. Avec les traits bien droits et puis il fallait marquer.
Oui, tout à fait, l'oreillette droite, l'oreillette gauche, et il ne fallait pas se tromper parce que c'était potentiellement inversé suivant où on regardait.
C'est vrai.
Et donc pour pomper le sang, parce que le cœur c'est quand même censé être la pompe du sang, donc pour pomper le sang dans tout notre corps, le cœur va tour à tour remplir ses cavités et puis les contracter pour envoyer le sang d'un endroit à l'autre. Et cette mécanique, elle est bien réglée en toute logique et elle est commandée par un nœud électrique qui est situé dans l'oreillette droite, le nœud sinusal, d'où le nom. Donc dans notre petite oreillette droite, il y a un truc qui fait que ça va déclencher toute la mécanique des multiples contractions du cœur pour envoyer le sang dans une cavité, dans l'autre, dans le reste du corps, etc. Et, et quand on est sinusal, ça veut dire que notre rythme sinusal fonctionne bien et donc que le cœur fait bien sa petite mécanique, etc.
Ce qui est quand même vachement rassurant.
C'est vachement pratique. C'est vachement pratique. Et ça ne veut pas dire qu'on a un rythme cardiaque rapide ou lent, mais juste régulier. Voilà.
D'accord.
Alors, maintenant, si vous entendez, j'ai vu Madame Michel en chambre 305, elle est apyrétique.
Qu'est-ce qu'elle fout à l'hôpital, Madame Michel? Parce qu'elle va bien quand même, du coup.
On le verra par la suite.
Donc, elle est
apyrétique.
Ça n'a rien à voir avec la joie. C'est-à-dire, elle ne fait pas des saltos de joie sur son lit.
Non.
D'accord.
Et ça n'a rien à voir avec athlétique aussi.
Apiculture non plus.
Non, c'est un Y. A-P-Y-R-E-T-I-Q-E.
Rétique, c'est pas les reins? Non, du tout.
Je ne pense pas.
Camille, là, tu t'inventes une vie de médecine.
Non, mais tu pourrais trouver Camille, en l'occurrence.
Ça a un rapport avec les yeux?
Non. Non, par rapport aux racines. Ah, par rapport aux racines, je veux dire, racine du mot.
Happy, la pomme? Pomme d'api?
Y.
Ah oui, c'est vrai, je vois pas.
A, pyrétique.
Donc, sans?
Oui.
Déjà. Enfin, elle n'est pas... Oui, c'est A, c'est...
Ah oui, ouais, effectivement,
elle
ouais.
Elle est sans... Pyrétique.
Alors, j'ai pas.
Pyrée, qu'est-ce que c'est la pyrée?
Ah.
La pyrée, c'est quand pyrée. Tu manges.
C'est... L'hypum d'hypir. Et puis on fait les petits boucons au milieu, voilà.
Un peu de kitcho, pas un peu de.
Avec les saucisses d'Ivoulaï, voilà. Oh là là.
Non mais on rit vraiment sur une blague aussi con, quoi.
Yes. Et j'ai le droit de faire cette blague puisque j'ai des gens dans ma famille qui ont cet accent-là. Voilà, je rappelle que je suis marocain donc j'ai le droit de faire. Non, j'ai pas le droit. Mais c'était rigolo quand même.
La pyrée.
Tu te yasses une pelouse sur la tarte. Bon, je peux débloquer si vous voulez.
Ouais, les pyrénées.
Alors, apyrétique, c'est-à-dire que Madame Michel n'a pas de fièvre. Tout
la
simplement.
Pyrée, c'est la fièvre
Ouais, pyrose, machin. C'est,
pyrotechnique.
Putain, mais oui, le voilà. Donc, la chaleur.
Elle est apyrétique.
C'est vrai qu'on aurait pu trouver.
Bah, oui,
c'est pour ça que je me suis dit peut-être. Et on aurait pu aussi dire que Madame Michel n'est pas, un mot que vous connaissez aussi, un rapport à la fièvre.
Toute froide, toute chaude.
Non, elle n'est pas fébrile. Qui vient du latin fébris pour la fièvre.
Ah, c'est en rapport avec la fièvre.
Ah, fébrile, c'est pas tout. Sentir un peu tout fragile.
C'est ça a été dérivé, mais initialement, c'est rapport à la fièvre.
D'accord, ok.
Parce que fébrile, fébris, du latin. Donc, si vous entendez votre médecin vous parler de médicaments antipyrétiques, par exemple, il s'agit de médicaments pour combattre la fièvre.
Ok.
Comme le paracétamol ou d'autres choses. Et de manière générale, c'est quand même plutôt une bonne chose de ne pas avoir de fièvre afin de ne pas se transformer en moelleux au chocolat par autocuisson. C'est quand même plutôt important. Ça, ça va être un de mes préférés. D'ailleurs, mes notes sont beaucoup trop longues alors que le truc est très simple. J'ai vu Madame J'ai vu Madame Michel en chambre 305. Elle est en décubitus dorsal.
Décubitus
dorsal.
Dorsal.
Donc il y a un truc à voir avec le dos.
Jusque là, pas mal.
Jusque là, tout va bien.
Décubitus. Le cubitus, c'est un os.
Ouais, il me semble. Il me semble que c'est vers le bassin. Je suis pas sûr, mais il me semble.
Non, c'est pas radius et cubitus.
Ah, peut-être.
Dans le bras.
Elle dort bien.
Attends, laisse-moi checker. Non, ce n'est pas ça.
C'est pas radius et cubitus dans le bras.
Si, t'as peut-être raison.
Dans le schéma en SVT sur le squelette.
Ah non, mais.
T'as, en bas, t'as le tibia.
Jusque là, je suis d'accord.
T'as l'humérus, c'est la cuisse, non?
Ah ouais, c'est, ouais, effectivement, c'est le bras. Tu as raison. Mais c'est pas ça.
Il est où l'humérus?
Je sais rien, c'est pas le sujet. Non mais j'ai vérifié, t'as raison. Le cubitus, je sais pas pourquoi j'étais parti sur le bassin, ce n'est pas ça.
Redis ça.
J'ai vu Madame Michel en chambre 305. Elle est en décubitus dorsal.
Décubitus dorsal.
C'est en rapport avec le dos, en revanche.
Alors le côté dorsal, oui.
Ah, donc en fait, elle est en position allongée sur le dos.
Oui, tout à fait. Madame Michel est allongée sur le dos. Être en décubitus signifie être allongée. Donc du latin decubitum ou decumbere, se coucher ou se mettre au lit. Donc si vous cherchez une nouvelle façon de dire que vous allez vous coucher, vous pouvez dire je vais me décubiter.
D'accord.
Ce qui sera tout à fait incorrect, mais c'est rigolo, donc ça va. Donc on va principalement dénombrer trois types de décubitus, on va dire en termes de médecine hospitalière, etc. Donc décubitus latéral, décubitus ventral et décubitus dorsal. Après, il y a d'autres types de décubitus que je n'ai pas cités.
Moi, je suis ventral, moi, en général. Quand je dors, je suis
un truc sexuel. Là, tu peux être ventral si tu veux, il n'y a pas de souci. Non, mais après, il y a des types de décubitus particuliers. Par exemple, il y a. Je fais une petite aparté. Vous savez, quand quelqu'un fait un malaise ou a un problème au cœur, on recommande de les mettre sur le dos avec les jambes surélevées. Et ça, c'est un type de décubitus, je n'ai pas gardé le nom, mais qui a été proposé pendant la Première Guerre mondiale.
Ah oui.
Voilà, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Et c'était justement pour aider quelqu'un qui avait. Je sais pas, il s'était fait mal quoi, à la guerre. Enfin, on se blesse à la guerre. Quoi. Mais voilà, donc il y a différents types de décubitus, mais on a les trois, latéral, ventral et dorsal. Et ça peut paraître trivial, mais en fait, c'est vachement important de pouvoir...
On est sur le royaume de la rime, quoi.
Pardon, je ne fais pas gaffe. Oui, c'est vrai qu'il y a du al.
Poète sans t'en rendre compte.
Mais donc, les positions allongées sont très importantes en médecine, et particulièrement à l'hôpital, parce que certaines pathologies peuvent entraîner un alitement, et pas un allaitement, parce que ça aurait été un peu gênant. Donc, certaines pathologies, oui, parce que sinon, ça s'appelle une grossesse, en fait. Donc, certaines pathologies, pardon, peuvent entraîner un alitement de plusieurs jours, semaines, voire plus, mois, des années, sans pouvoir bouger. Donc, ça a l'air reposant comme ça, de ne pas bouger. On se dit, ouh, c'est cool. Mais repensez juste au moment, en fait, où vous étiez dans la même position pendant longtemps. Donc, je sais pas, un cours en amphi, un voyage en avion pendant 8 heures.
Une épreuve de Koh-Lanta.
Voilà, ou un binge-watching de l'intégrale d'Amour, Gloire et Beauté, etc. Au bout de quelques heures à peine, on a déjà mal aux fessiers, on a des fourmis, etc. Et on a besoin d'aller se dégourdir les jambes, par exemple. Sauf que, en fait, quand on doit rester alité pendant 8 mois à l'hôpital,
non, mais c'est l'enfer.
En fait, on a dépassé le stade des fourmis depuis très longtemps. Donc, si... Oui, donc d'où l'importance d'un bon décubitus dorsal pour répartir les phases de contact en fonction de la forme du corps. Donc, si on allongeait les patients à l'arrache sur une planche de bois, les talons, les fesses, les omoplates et l'arrière du crâne, pourriraient en peu de temps. Parce qu'en fait, c'est les zones qui sont en contact. Donc, il va y avoir une accumulation de sang, un contact prolongé, accumulation de sang et aussi une toute petite zone où il n'y a pas de sang du tout qui va passer parce qu'il y a un contact. Continue, il y a tout le poids du corps qui va reparaître sur ces quatre points, et donc vous allez pourrir en quatre points du corps, et c'est le début de la fin. C'est ce qu'on appelle les escarres, donc c'est les parties du corps qui se noircissent.
Bien engagé là, du coup.
Ouais, ouais. Bah non, parce qu'on peut avoir des escarres ou une partie du corps qui pourrit, et il faut gratter, c'est comme un fruit qui pourrit, en fait, il faut dégager, mais c'est plutôt très grave, effectivement. Donc, mine de rien, c'est très important de. C'est assez intéressant, mine de rien, si vous cherchez des cubitus dorsales, les positions conseillées, il y a des positions qui sont conseillées pour vraiment créer des zones de contact à plusieurs endroits du corps, donc avec les jambes, etc., pour que justement, il y ait beaucoup plus de contact, et donc qu'il n'y ait pas un seul point de pression qui se prenne tout le poids du corps, etc. Donc, c'est vachement. Enfin, je trouve ça vachement intéressant.
Ça l'est.
Et j'aimais bien le terme en plus, c'était rigolo. Donc ce soir, quand vous allez décubiter, pensez à vous installer confortablement. Des fois que vous fassiez une nuit de plusieurs jours, on n'est jamais trop prudent. Bon, j'ai fini. Alors celui-là, je ne sais pas comment le prononcer, malheureusement. Désolé, j'ai oublié de demander à mes amis. C'est ASA1, mais moi je vais dire ASA1. Non, on va dire Assa 1, ça pourra vous donner une petite, un petit indice. Je l'aime beaucoup aussi celui-là. Donc, j'ai une patiente en chambre 305, Madame Michel, elle est en Assa 1.
Elle est au stade 1. Non, ça, ça en rapport déjà avec le 1, c'est genre un stade,
C'est une idée, oui, c'est un score.
C'est un score.
C'est un score.
Et non, c'est effectivement un score.
ASA, c'est des acronymes ?
Oui.
Ok, on avance. Lentement, mais on avance.
Alors, c'est que des mots que vous connaissez.
Ah, arbre, psyllium.
Non, alors, je peux donner des indices. Mm-hmm. C'est un pays, un magazine et une profession.
Algeria Society.
Le deuxième est bon.
Ok.
Pas le premier.
Non, un pays, on va dire. Afrique, c'est pas un pays.
Australie.
Non, effectivement, non, mais... suffit, non ? C'est un continent, monsieur. Et le dernier, tu disais ? American.
American Society Analytics ?
Non, il y a un début. Il y en a bien un début.
Anarchie ?
Non, n'oublie pas que c'est de la médecine, quand même.
C'est vrai, c'est vrai. Voilà.
Un dernier essai chacun. Attention, je serai intraitable.
Bah, du coup, je vais prendre mon temps pour réfléchir. American Society Association. Je crois que je l'ai déjà dit quatre fois.
Oui, c'est bien médical, ça, association.
Ouais, bah, je suis éliminé.
Tu peux jeter le gant de toilette si tu le souhaites.
Je sais pas. Voilà, je...
Donc, ASA, c'est American Society of Anesthesiologists.
Ah.
Et en fait, ça veut dire, bah, comme depuis le début, que Madame Michel est considérée comme en bonne santé. Donc, ça ne veut pas dire que tout va bien, mais ça veut dire qu'elle est considérée comme en bonne santé. D'un point de vue, et c'est important.
Anesthétique.
Exactement.
Enfin, anesthésiste.
Anesthésique, je crois. Mais ouais, en gros, c'est l'idée. Donc, comme vous le savez peut-être, toute anesthésie comporte des risques. Et plus l'anesthésie est lourde, plus il y a de risques. Ça peut être soit local, soit général pendant 8 ans. Bon.
C'est pour ça qu'il y a des salles de réveil d'anesthésie.
Exactement. Et en plus, ces risques sont accentués par l'état du patient. Donc, si vous êtes en bonne santé, bon, bah, les risques sont réduits. Par contre, si vous avez, bah, comme on a pu le voir avec le Covid, des morbidités, etc., bah, potentiellement, ça va accentuer les risques parce que vous allez avoir plus de mal à respirer, ce genre de choses. Donc en fait, ça permet aux anesthésistes d'évaluer votre état de santé et donc les risques qui vont être liés avec la procédure pour vous anesthésier en fait. Donc ASA 1, c'est patient en bonne santé, globalement. Vous pouvez avoir des petites douleurs, des machins et tout, mais je sais pas, vous avez une corpulence normale, pas de problème de cage thoracique, ceci, cela. En fait, c'est entre 1 et 6. ASA 2. Patient présentant une maladie systémique légère, donc diabète non insulinodépendant, hypertension, obésité, insuffisance rénale modérée, infarctus ancien, etc. etc. ASA 3, on aura pu en deviner certains, mais donc patient présentant une maladie systémique sévère, angine de poitrine, diabète insulinodépendant, obésité morbide, insuffisance respiratoire modérée, syndrome d'apnée du sommeil. Donc mine de rien, syndrome d'apnée du sommeil, ça peut être assez grave si vous avez besoin de vous faire anesthésier. Score ASA 4, donc patient présentant une maladie systémique sévère, mettant en jeu le pronostic vital. Bon là, ça commence à partir en couille, hein, je vous le cache pas. Patient dialysé, insuffisance cardiaque ou respiratoire grave, ça commence à être chaud. Score ASA 5, patient moribond, dont l'espérance de vie. Alors là,
c'est horrible.
Alors, en fait, déjà, le 4, c'était chaud. À partir du 5.
L'espoir commence à partir.
Schumacher et Bouteflika. Quoi.
Ben vraiment, globalement. Parce qu'en fait, à partir du 5, t'estimes les risques, mais bon, bah, au point où t'en es. Donc ASA 5, patient moribond, dont l'espérance de vie n'excède pas 24 heures.
Oh, putain,
en l'absence d'intervention chirurgicale.
C'est donc, clairement pas Bouteflika.
Donc, état de choqué.
Comment il va d'ailleurs ?
Il est mort.
Bah oui.
Mais officiellement ?
Bah oui.
J'ai vu qu'il avait été enterré. Ouais.
Mais non !
Mais oui.
Ouais, j'ai
mais non, mais j'ai pas vu.
Ouais, j'ai vu ça dans le 20 minutes, moi, par
exemple. Mais il est mort, c'est longtemps qu'il est mort, non ?
Oui, non, mais là.
Ah oui, bah.
D'après l'état, il est.
Non, mais là, il a.
Ah, donc enterrement bientôt ?
Bah, c'est déjà fait.
Ouais.
Ah, bah. Ah, mais oui, oui, oui.
Et puis, religion musulmane,
c'est 24 heures, un truc comme ça, ouais. D'accord.
Parce qu'il n'y a pas de conservation du corps.
La condoléance.
Bon,
ouais, je suis très triste.
Bah, oui, je sais.
Je pense que ça va aller. Et donc...
Pardon pour la partie boutique.
Et donc, ASA 6, merci. Patient en état de mort cérébrale, candidat au don d'organes. Donc, globalement, ASA 6, c'est pas qu'il n'y a pas de risque, parce qu'il faut quand même que les organes ne soient pas endommagés. En fait, il faut que le corps puisse continuer à fonctionner. parce que potentiellement, alors je suis pas médecin, mais si vous avez un stress nerveux, par exemple, même si vous êtes en état de mort cérébrale, bah, ça peut avoir des... Enfin, le corps est une grande machine. Donc si vous avez un stress nerveux, ça peut être accumulation de toxines, de machin, de ceci, de cela. Et donc, abîmer des organes que, bah, en fait, vous aimeriez bien pouvoir donner. Donc c'est aussi important de, bah, pour les anesthésistes de savoir ceci. Donc on remercie au passage... Donc c'est le moment, Pipou, mais on remercie au passage nos chers amis anesthésistes de prendre soin de nous afin que l'on puisse supporter les supplices infligés à nos corps par nos amis chirurgiens afin de prendre soin de nous également, mais d'une autre façon. Et bien sûr,
prendre soin de nos organes aussi.
Tout à fait. Et depuis le début, bien sûr, je dis patient, mais patient, patiente, chirurgien, chirurgienne, etc. Oui. On ne doute pas de la... Enfin, on encourage en tout cas cette
diversité.
Parce qu'on ne doute pas, en fait, j'en sais rien, je ne connais pas les chiffres. Je vais être franc. J'aime beaucoup celui-là aussi, mon Dieu. Oh, je finis que par des trucs que j'aime bien. Je finis... Bon, non, il reste deux pages. Mais... On va essayer d'accélérer. Alors, donc je suis allé voir Madame Michel en chambre 305 pour lui faire passer des tests. Et elle est à 15 sur l'échelle de Glasgow. Vous avez droit à une supposition chacun.
Ok. 15 sur combien?
Ça, je ne peux pas te dire. En tout cas, elle est à 15.
Elle est à 15. 15 sur l'échelle de Glasgow.
Oui.
Glasgow comme la ville en Écosse.
En tout cas, ça s'écrit pareil.
Ok. Ça veut dire que elle est allée 15 fois aux toilettes.
Non.
Qu'elle a bu 15 fois trop de scotch.
Non. Non, Madame Michel est parfaitement consciente. C'est une très bonne nouvelle. Donc l'échelle de Glasgow sert à mesurer l'état de conscience d'un patient. Elle a été développée en 1974 par Graham Teasdall et Brian Jennett à l'Institut de neurologie de Glasgow. Plutôt classe de pas avoir donné leur nom mais celui de l'institut. Potentiellement été forcé par l'institut, mais moi je préfère dire que c'est classe. Et leur proposition, en fait, elle visait notamment à la base à estimer l'état de conscience de personnes suite à un traumatisme crânien. Donc c'est vachement important. Donc le score va de 3 à 15 et il est calculé en fait à partir de 3 valeurs. Donc le score d'ouverture des yeux, score de réponse verbale et score de réponse motrice. Donc c'est notamment ce que vous pouvez voir tester quand il y a quelqu'un qui se casse la tête et il y a des secouristes qui viennent intervenir qui demandent est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous pouvez parler.
Et quand ils te mettent le petit truc dans le genou là?
Et
Non,
aussi potentiellement. En fait, voilà.
Non, je sais pas, c'est pas.
Alors pour chaque score, ça c'est
neurologique.
Ah ouais. Je sais pas, moi à chaque fois qu'on me l'a fait, j'ai trouvé ça très drôle. Ah bon?
Ouais. Quand j'avais un problème aux yeux, c'était neuro et du coup on me faisait ça. Enfin bref.
On tapait sur le jeu. Très bien. Donc là c'est pas le sujet. Donc score d'ouverture des yeux, score de réponse verbale et réponse motrice. Et en fait pour chacun donc pour ouverture des yeux, il y a un score de 1 à 4, réponse verbale 1 à 5 et réponse motrice 1 à 6.
Ah, et quand tu cumules tous les points.
Exactement. Donc par exemple, pour ouverture des yeux, pour avoir 4, il faut une ouverture spontanée. La personne qui s'est pété à la gueule ouvre les yeux toute seule. Pour avoir un score de 3, c'est quand on lui demande « Est-ce que vous pouvez ouvrir les yeux ?» Là, ça ouvre. Score de 2, c'est à la douleur. Si tu lui plantes un truc dans le mollet, là ou qu'elle a mal quelque part, là, ça lui fait ouvrir les yeux. Et pour avoir 1, donc le minimum, c'est toujours 1, tu ne peux pas ouvrir les yeux. Donc, voilà. Donc, potentiellement, on peut avoir une très bonne réponse verbale, très bonne réponse motrice, mais pas d'ouverture des yeux, et bref, différentes choses. Et pareil pour la réponse verbale ou motrice, c'est soit tout seul, soit avec confusion, soit uniquement sur stimulus, etc. Mmh. Et voilà, je trouve ça plutôt cool. Pour réponse maîtrise, par exemple, tu arrives à répondre aux ordres qu'on te donne, donc est-ce que vous pouvez lever le bras, etc., donc tu as 6. Si tu n'es capable que d'éviter les choses, par exemple, si on met ta main au-dessus de ta tête et que tu arrives à enlever ta main de ta tête pour pas qu'elle te tombe sur la gueule, parce que c'est un réflexe de conscience, dans ce cas-là, tu as 4. Et si tu n'as pas de réflexe d'évitement, enfin de retrait, tu es en dessous et tu commences à être dans une petite galère. Plus le score est bas et plus les chances de récupération totale des facultés suite au traumatisme baissent, parce que forcément c'est peut-être simplement momentané, et un score de 3 sur l'échelle de Glasgow correspond à un coma profond. En dessous de 7, parce que un coma profond, oui, parce que tu n'as pas réussi à ouvrir les yeux, tu n'arrives pas à parler et tu n'arrives pas à bouger.
Oui.
Bon, globalement, ça va être chaud pour jouer le match de foot du week-end qui vient. Quoi.
Au moins, tu n'es pas titulaire, quoi.
Ouais, peut-être sur le banc, mais disons qu'au moment de te chauffer, il faudra ramener les sèche-cheveux parce que
tu es pas en dorsale.
Ouais, en décubitus. En dessous de 7, on considère que le patient est dans un coma grave, sauf si le patient présente initialement un handicap. Donc, par exemple, un patient muet, il pourra pas fournir de réponse verbale.
Oui.
C'est logique. Donc son score, en fait, donc son maximum, ça va être 11 et pas 15.
Voilà. Ah ok, tu lui donnes pas 3 points gratos en fait.
Oui, non, c'est ça. Parce que sinon, en fait, si tu dis qu'il a, mettons, 14, et que tu marques dans sa fiche, bah, la personne qui va le tester après, qui va voir sa fiche, va dire « Ah, bah, c'est cool, il a répondu. » Alors oui, que
j'avoue, okay,
voilà, tu peux te dire « Il s'est arrêté de parler sur la route, qu'est-ce qui s'est passé ?» Ouais, ça peut être. Et il y a un site de la SFMU qui permet, vous cherchez leur SFMU calculateur Glasgow, et qui permet de calculer le score de Glasgow suivant les réponses. Donc si vous avez quelqu'un qui fait un malaise et que vous avez besoin d'envoyer un rapport aux équipes de secours, etc. Bon, déjà ils pourront vous décrire tout simplement, mais vous pouvez utiliser ça pour faire des petits débriefings.
C'est intéressant.
Bon, les derniers, je vais les faire rapidement, mais. Alors, si vous entendez Madame Michel, oui, je l'ai vue en chambre 305, elle nous a fait un joli Bristol 3.
Alors, Bristol 3, pour moi, c'est... J'ai aucune idée.
Ça veut dire que Madame Michel a bien fait caca. Voilà.
Ah, putain, mais je me suis trompé.
Tout simplement. Parce qu'en fait, l'échelle de Bristol, c'est une échelle qui sert à décrire l'état des selles, globalement. Okay. Donc, ça va de 1 à 6, je crois, un truc comme ça.
Je crois que, tu sais, il y a un best-seller qui est sorti il y a quelques années sur un bouquin sur les intestins.
Ah, mais c'est... Là,
j'ai plus le nom,
Oui.
Je ne me rappelle plus, et il me semble qu'elle en parle dedans, qu'il y a le schéma d'échelle Bristol.
Bah, c'est intéressant, mais je ne vais pas faire la description, parce que rien qu'en le lisant, ça m'a fait un peu gerber, perso. Mais donc, de 1 à totalement liquide, avec aucun morceau solide, à 6, qui est en gros des petites billes ultra dures et dures à faire sortir.
Petit qu'un Nesquik.
Voilà, exactement. Nesquik, mais Nesquik en billes de métal, quoi. Et le 3, c'est juste, voilà, t'as une petite saucisse un peu nervurée. Voilà.
Okay. Qui est la norme, je crois.
Tout à fait.
Quel beau caca.
Donc voilà, Madame Michel, ça va. Madame Michel, elle souffre de... Si vous en avez... Oui, je vois Madame Michel, 305, ouais, elle nous a fait une petite sialorée. Donc j'ai demandé au médecin d'aller la voir.
Sialorée. Sia comme la chanteuse.
S-I-A-L-O-R-R-H-E-E.
Elle se tombe au chandelier.
En fait, ça veut dire que...
L'exorcisme.
Non, ça veut dire que Madame Michel bave beaucoup.
D'accord.
Ah. Plus que la normale en tout cas, donc enfin plus que ce qu'on attend d'un être humain, mais potentiellement. Voilà, mais potentiellement moins qu'un chien devant en os. Donc on va quand même surveiller ça pour comprendre d'où ça vient, parce qu'on va pas laisser Madame Michel comme ça. Et puis bon, il y a pas d'état de mort imminente à prévoir, mais c'est quand même à prendre sérieusement, parce que bon, si elle bave plus qu'à l'accoutumée, c'est qu'il y a une raison. Il faut quand même checker ça. Mais bon, si vous entendez voilà que votre vieille tata ou votre vieux tonton a fait une sialorée. Jusque-là, ça va. C'est vraiment pas le plus grave qui peut lui arriver dans un hôpital. Madame Michel, oh bah oui, je la connais bien. Vous n'êtes pas la première personne à me demander.
Chambre 305, non ?
Exactement. Ouais. Je viens de lui donner un médicament pour sa céphalée. Ça devrait bientôt aller mieux.
Ah bah, céphalée, ça c'est mal au crâne.
Oui, parfait. Madame Michel a mal à la tête. Donc ça fait peur comme ça, en fait, céphalée. Mais ça peut être très bien une petite déshydratation ou une gueule de bois, tout simplement.
Une céphalée, c'est quand c'est pas assez... Enfin, t'as deux types.
Tu ne parles pas dans le micro.
Bah pourtant, je ne peux pas faire plus en face.
Ah, là, c'est mieux.
Mais pardon, tu as deux types de maux de crâne, je crois. Tu as les céphalées et les migraines.
Enfin, oui,
en gros.
Tout à fait. Et oui, c'est très différent. Les migraines, c'est plutôt...
je crois que c'est hyper violent, c'est que d'un côté. Enfin, très souvent, c'est que d'un côté.
C'est localisé, etc. Et ça a des origines différentes, on va dire.
Je crois que ça te donne des nausées, des trucs comme ça, alors que les céphalées, non, ça ne te donne pas de nausées.
Bah, j'ai pas cherché plus en détail, mais effectivement,
c'est différent.
Ouais. Disons que c'est deux grandes familles et céphalées. Alors, ça peut être, tu vois, une très grosse céphalée, avoir un monstrueux mal de crâne, mais globalement, si j'allais dire, vous avez tous subi une gueule de bois dans votre vie, pas forcément, peut-être que vous ne buvez pas d'alcool, mais voilà, avoir mal à la tête, typiquement, je suis allé faire du sport genre la semaine dernière et j'avais pas bu d'eau pendant la séance de sport. Le soir, j'avais un peu mal à la tête, déshydratation et c'est tout quoi.
Bon, après, bon, tu prends un paracétamol et puis ça fait aller.
Oh oui! Ok, je propose qu'on la garde.
Bah, merci.
Je propose qu'on la garde. Et un petit dernier pour finir en pas beauté. Si vous entendez que Madame Michel est hémétique.
Ah, hémétique, elle vomit.
Oui, oh là là, très bien, celui de dernier. Donc voilà, ça pareil, ça peut avoir, enfin ça peut faire peur comme ça.
On est hypochondriaque, on ne l'est pas, on se renseigne.
Mais alors, vous avez peut-être entendu déjà Juan parler de. Hémétophobe.
Oui, c'est les gens qui ont la peur de vomir.
Exactement, qui ont la peur de vomir, en tout cas, qui ont la phobie du vomi. Donc, soit de vomir eux-mêmes, soit d'entendre parler de ça.
Ça doit être terrible, ça, comme angoisse.
Ouais, quand t'as peur toi-même de vomir.
Ça doit être vraiment terrible.
Voilà. Mais en tout cas, si vous connaissez quelqu'un qui est hémétique, c'est pas forcément dramatique. Ça peut être grave, mais c'est pas forcément dramatique. Ça peut juste vouloir dire qu'il y a quelque chose qui est mal passé, qu'ils ont cliché, et ça va aller, quoi. Donc, dans tous les cas, toujours, faire checker par un médecin, par le personnel hospitalier, par une médecine, par plein de personnes
aptes.
Exactement. Apt. Mais voilà, j'espère que c'est la fin de ce petit sujet.
C'était trop bien.
Merci. Et donc, voici, on résume Madame Michel. Bon, en tout cas,
elle a tout eu.
Elle peut rentrer chez elle.
Ah, bah, justement, ce que je disais, en disclaimer, personnellement, je ne suis pas médecin, donc je ne ferai pas de diagnostic. Mais jusque-là, elle a plein de signes qui sont positifs. Ouais, elle a un petit mal de crâne, elle vomit un peu et elle a fait un joli caca. Et aussi, elle bave un peu. Bon, potentiellement, elle s'est pris une cuitasse où les tech-paf sont mal passés et du coup, elle salive, je ne sais pas. Mais bon, demandez au personnel qui vous renseignera. Mais en tout cas, ça a l'air d'aller. Voilà.
Eh ben, merci.
Bah, merci beaucoup, c'était trop trop bien.
Merci, bon, j'espère que vous pourrez mieux vous repérer en milieu hospitalier à l'avenir et que vous penserez à nous en allant vous décubiter tous les soirs maintenant. je vais l'utiliser.
Il est génial ce mot, se décubiter.
J'adore. Mais sur ce, ça va être la fin de cet épisode.
Mais quel retour.
C'était fou.
Wow.
Mon Dieu.
Non, vrai, ça faisait...
tellement
ça fait
plaisir.
Tellement plaisir.
Incroyable.
Le cœur a explosé de bonheur.
Ilias ?
Non, ouais, ça va. Ça va.
Non, ça fait plaisir de revenir, de revoir des micros, de voir vos têtes aussi, tout simplement.
Oui, c'est vrai.
De pas
c'est
attendre.
Vrai. C'est vrai qu'on s'est manqué quand même.
Petite latence. Ben oui.
C'est pour ça qu'on s'est un peu raconté nos vies sur cet épisode. Ça va la baisse ?
Amdoudou, écoute.
Amdoudou. Mais ouais, ça fait très plaisir. Et puis, bah, voilà, on va continuer sur notre petit rythme de 1 épisode toutes les deux semaines. Et puis, bah, on vous attend vraiment. Alors là, au rendez-vous, partagez les épisodes, likez, commentez, envoyez-nous des messages. On est trop, trop chaud. On a fait une longue pause. On en avait besoin aussi. En tout cas, personnellement, j'en avais besoin. Mais ça fait très plaisir de revenir. Et puis, bah, on va vous reproposer plein d'autres choses. On va commencer doucement. On va reprendre notre rythme correctement. Mais,
petit à petit,
voilà, on a plein.
On fait son podcast.
Oui, et bah, je propose que ce soit notre conclusion.
Ah.
On se retrouve très vite à l'heure de semaine.
C'est un détecteur de conneries.
Les uns et les autres.
Et
ciao.
Maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Le je lui dise d'aller se faire enculer.
Vulgaire? Je trouve ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.